RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel.
Coquel-Roel.
Et un nouveau journal avec Gaëtan Plenet.
Bonjour à tous. Droit, loi, justice. Un slogan repris en cœur par des centaines de milliers de manifestants hier à Istanbul. Véritable marée humaine sur la rive asiatique de la métropole turque. Le CHP, le parti d'opposition, a marqué les esprits avec ce nouveau rassemblement de soutien. Omer et Ekrem İmamoğlu, arrêtés il y a une dizaine de jours maintenant, en étant en Turquie dès le début de ce journal. La course contre la montre continue en Birmanie à la recherche de victimes piégées sous les décombres de leur immeuble écroulé après le violent séisme qui a secoué le pays. Face à cette situation, des combattants anti-juntes ont annoncé un cessez-le-feu partiel de 2 semaines. Il débute aujourd'hui. Dans ce journal également, lourd bilan humain au Burkina Faso. Une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie tués vendredi dans la région de l'Est. Et puis de nouvelles frappes à Gaza ce matin. Au moins 8 morts, dont des enfants. La Turquie confirme l'arrestation d'un journaliste suédois jeudi à l'aéroport d'Istanbul. Il a été placé en détention. Les autorités l'accusent de terrorisme et d'insultes au président Erdogan. Rien à voir avec ses activités journalistiques, assure le gouvernement. Ce n'est pourtant pas le seul à avoir été arrêté depuis le début du mouvement de contestation. Une dizaine de journalistes turcs l'ont été après avoir couvert les cortèges. Un reporter de la BBC, lui, a été expulsé. Journalistes, mais aussi manifestants, avocats, ils sont près de 2000 à avoir été interpellés depuis une dizaine de jours. Et l'arrestation, puis l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusé lui de corruption. Hier, à l'appel de l'opposition, une immense foule de manifestants s'est rassemblée sur la rive asiatique d'Istanbul. Correspondance depuis Ankara, Danon Lower.
Qu'ils aient été ou non 2 millions, comme l'affirme le CHP, l'image de cette esplanade géante remplie de manifestants, de drapeaux turcs et de photos d'Ekrem İmamoğlu est une victoire pour l'opposition, tout particulièrement pour la formation du maire emprisonné. Depuis de longues années, le CHP souffrait d'une image de parti un peu éloigné de l'espace public, qui n'osait plus investir la rue, dont la voix s'entendait surtout entre les murs du Parlement. Avec cette protestation autour d'Ekrem İmamoğlu, certains commentateurs estiment même que le CHP, notamment en mobilisant la jeunesse étudiante, est parvenu à redonner toute sa place au mot « peuple » dans son nom de « Parti républicain du peuple ». L'un de ses principaux objectifs est donc de ne plus abandonner les places. Özgür Özel, le dirigeant du CHP, qui est un peu la révélation politique de ce mouvement, appelle désormais à manifester chaque mercredi soir à Istanbul et chaque week-end dans une autre province turque. Son parti lance aussi une campagne de signatures pour réclamer la libération d'Ekrem İmamoğlu et l'organisation d'élections anticipées. Il risque fort de n'obtenir ni l'une ni l'autre avant longtemps, mais nul doute que les images du rassemblement de samedi n'ont pas plu du tout à Recep Tayyip Erdogan. Anand Loer, Ankara, RFI.
La crainte des répliques en Birmanie, il y en a eu plusieurs depuis vendredi, et la première secousse la plus forte de magnitude 7,7. Le bilan humain de ce séisme fait pour l'instant état de plus de 1600 morts, mais de nombreux corps sans vie pourraient en réalité être bloqués sous les décombres des immeubles effondrés. L'aide humanitaire s'organise et le séisme aura eu le mérite de donner naissance à un cessez-le-feu partiel dans les zones sinistrées pour une durée de 2 semaines. Ça a été annoncé hier par l'opposition armée qui combat le gouvernement militaire depuis le coup d'État de 2021. Vincent Souriot.
La résistance se met en retrait pour faciliter les opérations de secours. L'opposition souligne que de très nombreux ouvrages ont été touchés, routes, ponts, immeubles, pagodes, temples, mosquées, et que les victimes coincées sous les décombres doivent être évacuées et soignées le plus vite possible. La rébellion en appelle à l'ONU afin que l'aide humanitaire soit déployée d'urgence et se dit prête à travailler avec les organisations internationales pour assurer leur sécurité et soutenir la mise en place de dispensaires médicaux. Dans un geste rarissime, les rebelles vont jusqu'à tendre la main à la junte birmane, à condition d'obtenir des garanties de sécurité. La dissidence propose d'envoyer ses professionnels de santé dans les zones contrôlées par le gouvernement. L'insurrection a déjà débloqué 1 million de dollars. Elle demande à tous les citoyens, tous les groupes ethniques, toutes les forces révolutionnaires de se mobiliser en faveur des sinistrés.
À précision de Vincent Souriot. En Guinée, la télévision nationale a diffusé hier soir les images de Moussa Dadis Camara sortant de prison la veille, juste après avoir été gracié. Il avait pourtant été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en juillet dernier pour crime contre l'humanité après le massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009. Alors forcément, cette grâce suscite l'indignation chez les victimes et leurs familles. Vous retrouvez un article à ce sujet sur RFI.fr. Au Burkina Faso, une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans l'attaque de leur base. C'était vendredi. Un groupe armé terroriste a pris d'assaut le camp militaire de Diapo. Apaga, située dans la région de l'Est. Les assaillants ont d'abord récupéré une partie de l'armement et des munitions avant de mettre le feu au reste du matériel. Le récit avec Lisa Fabian.
Les assaillants sont arrivés à moto en grand nombre autour de 16 heures, rapporte la population. Ils ont encerclé la ville et ont commencé à tirer. Tout le monde s'est mis à l'abri, expliquent ces témoins qui décrivent une situation très tendue. Des tirs ont ensuite retenti près du camp militaire. Après un moment de résistance, les soldats ont dû l'abandonner. Les terroristes se sont servis dans les armes et les munitions. Après, ils ont mis le feu à ce qu'il restait, explique une source locale qui a pu visiter le site au lendemain de l'attaque. Le ratissage qui a suivi a permis de retrouver les corps sans vie d'au moins 30 soldats. Les volontaires pour la défense de la patrie qui étaient en formation à l'intérieur du camp ont quant à eux perdu 22 de leurs camarades qui ont été inhumés dès ce samedi. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs soldats manquent toujours à l'appel et les recherches se poursuivent pour les retrouver. Des commerces, le siège d'une société cotonnière et la prison civile ont aussi été visités par les assaillants qui ont incendié certains bâtiments. Des tirs d'obus ont visé la ville dans la matinée du samedi, selon un habitant qui décrit des scènes de désolation à Diapaga.
8 morts, dont des enfants ce matin à Gaza, bilan des secouristes de la défense civile de l'enclave après une frappe attribuée à Israël sur une maison et une tente abritant des déplacés. Ça s'est passé à Ran Younes. L'armée israélienne annonce, elle, ce matin avoir activé les sirènes d'alerte antiaérienne dans plusieurs régions du pays après le tir, je cite, d'un projectile depuis le Yémen. Et c'était il y a tout juste 4 semaines à Los Angeles.
And the Oscar goes to No Other Land.
Le documentaire No Other Land remportait l'Oscar du meilleur documentaire, mais pour le co-réalisateur palestinien Hamdan Balal, les éloges du monde du cinéma ont très vite cédé la place aux menaces. L'armée israélienne l'a arrêté chez lui cette semaine à son retour en Cisjordanie occupée. À Massafer Yatta, où le film a été tourné, la statuette a laissé un goût amer. Amira Swilem a pu en discuter avec un habitant.
Ala Haslin, 25 ans, a bien conscience que parler aux médias peut lui causer de graves problèmes. Mais il tient à faire part de son désarroi et de celui de ses voisins.
Cet Oscar est une reconnaissance magnifique pour les habitants de Massafer Yatta, mais en même temps, depuis l'Oscar, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Les attaques de colons se multiplient. On sent bien que leur haine et leur détestation a augmenté depuis. Ce qu'on voulait pourtant, c'est que l'Oscar nous protège et qu'il sensibilise le monde à ce qu'il se passe à Massafer Yatta.
Cagoule sur le visage et barre de fer à la main, des colons ont à nouveau pris d'assaut un village de Massafer Yatta vendredi. Des habitations ont été mises à sac. Au moins 5 Palestiniens ont été blessés et 22 autres arrêtés par l'armée israélienne, selon Ala Haslin.
La situation ne fait qu'empirer. Tout le monde a peur en permanence. On est vraiment terrorisés. Tous les matins, on se réveille en se demandant qui va être déplacé aujourd'hui, qui va perdre sa maison, où va avoir lieu l'attaque des colons. On vit vraiment dans la terreur à Massafer Yatta.
Des attaques qui interviennent en présence de l'armée israélienne très souvent, et alors que l'annexion de la Cisjordanie est désormais défendue ouvertement par certains ministres israéliens. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
En France, fin de la trêve hivernale demain, les expulsions vont reprendre après une année 2024 record. Hier à Paris, des manifestants ont alerté sur la gravité de la crise du logement dans le pays. Reportage de Constantin Jaloux.
Avec sa petite fille dans les bras, Aya avance en tête de cortège sous un drapeau de la Confédération Nationale du Logement. Après avoir payé 5 mois de loyer en avance, elle a réalisé que son nouvel appartement était une arnaque.
On a donné le 2000 euros, mais après une semaine, le gardien, il a cassé ma porte. Le jour-là, on a découvert que cette maison était à squat. C'est catastrophe.
Cette famille de 5 doit être expulsée d'ici juillet sans solution de relogement. Des solutions, certains politiques en proposent. Mathilde Panot est députée La France Insoumise.
Si on pouvait juste réquisitionner, sachant qu'il y a en plus des millions de logements vacants dans ce pays, et construire du logement social ainsi que des places d'hébergement d'urgence, on pourrait faire en sorte de n'avoir personne à la rue. Ce qui, je rappelle, était la promesse que Emmanuel Macron avait fait en 2017 qu'il n'a jamais tenue.
C'est un véritable désastre social ce qui se passe en fait sous nos yeux.
Jean-Baptiste Hérault est porte-parole de l'association Droit au Logement.
On n'a jamais compté autant d'expulsions forcées dans notre pays. On était l'année dernière, selon la Chambre nationale des huissiers, à 24 000 expulsions, alors qu'en 1983, on était à 3 200 ou 3 300, et dans les années 70, à moins de 2 000.
L'an dernier, seuls 10 à 15% des foyers expulsés ont été relogés depuis.
Un reportage de Constantin Jalot. Il est 10h10 à Paris.